comme on vient de le voir, un magistrat instructeur dirige un interrogatoire à son gré. Libre à lui d'avoir de la finesse ou d'en manquer. Un interrogatoire, ce n'est rien, et c'est tout. Là gît la faveur. Camusot sonna. L'huissier était revenu. Il donna l'ordre d'aller chercher M. Lucien de Rubempré, mais en recommandant qu'il ne communiquât avec qui que ce soit pendant le trajet. Il était alors 2 heures après-midi. « Il y a un secret, se dit en lui-même le juge, et ce secret doit être bien important. Le raisonnement de mon amphibie, qui n'est ni prêtre, ni séculier, ni forçat, ni espagnol, mais qui ne veut pas laisser sortir de la bouche de son protégé quelques paroles terribles, est ceci. Le poète est faible, il est femme. Il n'est pas comme moi, qui suis l'Hercule de la diplomatie, et vous lui arracherez facilement notre secret. Eh bien, nous allons tous avoir de l'innocent. » Et il continua de frapper le bord de sa table avec son couteau d'ivoire pendant que son greffier copiait la lettre d'Esther. Combien de bizarreries dans l'usage de nos facultés ! Camusot supposait tous les crimes possibles et passait à côté du seul que le prévenu avait commis, le faux testament au profit de Lucien. Que ceux dont l'envie attaque la position des magistrats veuillent bien songer à cette vie passée, en des soupçons continuels, à ces tortures imposées par ces gens à leur esprit, car les affaires civiles ne sont pas moins tortueuses que les instructions criminelles. Et ils penseront peut-être que le prêtre et le magistrat ont un harnais également lourd, également garni de pointes à l'intérieur. Toute profession, d'ailleurs, a son cilice et ses casse-têtes chinois. Vers 2 heures, M. Camusot vit entrer Lucien de Rubempré, pâle, défait, les yeux rouges et gonflés, enfin dans un état d'affaissement qui lui permit de comparer la nature à l'art, le moribond vrai au moribond de théâtre. Le trajet fait de la conciergerie au cabinet du juge, entre 2 gendarmes précédés d'un huissier, avait porté le désespoir à son comble chez Lucien. Il est dans l'esprit du poète de préférer un supplice à un jugement. En voyant cette nature entièrement dénuée du courage moral qui fait le juge et qui venait de se manifester si puissamment chez l'autre prévenu, M. Camusot eut pitié de cette facile victoire. Et ce mépris lui permit de porter des coups décisifs en lui laissant cette affreuse liberté d'esprit qui distingue le tireur quand il s'agit d'abattre des poupées. « Remettez-vous, monsieur de Rubempré, vous êtes en présence d'un magistrat empressé de réparer le mal que fait involontairement la justice par une arrestation préventive, quand elle est sans fondement. Je vous crois innocent, vous allez être libre immédiatement. Voilà la preuve de votre innocence. » Une lettre gardée par votre portière en votre absence et qu'elle vient d'apporter. Dans le trouble causé par la descente de la justice et par la nouvelle de votre arrestation à Fontainebleau, cette femme avait oublié cette lettre, qui vient de Mademoiselle Esther Gobseck. Lisez !» Lucien prit la lettre, la lut et fondit en larmes. Il sanglota sans pouvoir articuler une parole. Après un quart d'heure, temps pendant lequel Lucien eut beaucoup de peine à retrouver de la force, le greffier lui présenta la copie de la lettre et le pria de signer un « pour copie conforme à l'original » à représenter à première réquisition, tant que durera l'instruction du procès, en lui offrant de collationner. Mais Lucien s'en rapporta naturellement à la parole de Coquart quant à l'exactitude. « Monsieur, dit le juge d'un air plein de bonhomie, il est néanmoins difficile de vous mettre en liberté sans avoir rempli nos formalités et sans vous avoir adressé quelques questions. C'est presque comme témoin que je vous requiers de répondre. À un homme comme vous, je croirais presque inutile de faire observer que le serment de dire toute la vérité n'est pas ici seulement un appel à votre conscience, mais encore une nécessité de votre position, ambiguë pour quelques instants. La vérité ne peut rien sur vous, quelle qu'elle soit, mais le mensonge vous enverrait en cour d'assises et me forcerait à vous faire reconduire à la conciergerie. tandis qu'en répondant franchement à mes questions, vous coucherez ce soir chez vous et vous serez réhabilité par cette nouvelle que publieront les journaux. Monsieur de Rubempré, arrêté hier à Fontainebleau, a été sur-le-champ élargi après un très court interrogatoire. Ce discours produisit une vive impression sur Lucien, et en voyant les dispositions de son prévenu, le juge ajouta « Je vous le répète, vous étiez soupçonné de complicité dans un meurtre par empoisonnement sur la personne de la demoiselle Esther. Il y a preuve de son suicide, tout est dit, mais on a soustrait une somme de 750 000 francs qui dépend de la succession, et vous êtes l'héritier. Il y a là, malheureusement, un crime. Ce crime a précédé la découverte du testament. Or, la justice a des raisons de croire qu'une personne qui vous aime autant que vous aimez cette demoiselle Esther s'est permis ce crime à votre profit. Ne m'interrompez pas, dit Camusot en imposant par un geste silence à Lucien qui voulait parler. Je ne vous interroge pas encore. Je veux vous faire bien comprendre combien votre honneur est intéressé dans cette question. Abandonnez le faux, le misérable point d'honneur qui lie entre eux les complices, et dites toute la vérité. On a dû déjà remarquer l'excessive disproportion des armes dans cette lutte entre les prévenus et les juges d'instruction. Certes, la négation habilement maniée a pour elle l'absolu de sa forme et suffit à la défense du criminel. Mais c'est en quelque sorte une panoplie qui devient écrasante quand le stylet de l'interrogation y trouve un joint. Dès que la dénégation est insuffisante contre certains faits évidents, le prévenu se trouve entièrement à la discrétion du juge. Supposez maintenant un demi-criminel, comme Lucien, qui, sauvé d'un premier naufrage de sa vertu, pourrait s'amender et devenir utile à son pays. Il périra dans les traquenards de l'instruction. Le juge rédige un procès-verbal très sec, une analyse fidèle des questions et des réponses. Mais de ces discours insidieusement paternels, de ces remontrances captieuses dans le genre de celle-ci, rien n'en reste. Les juges de la juridiction supérieure et les jurés voient les résultats sans connaître les moyens. Aussi, selon quelques bons esprits, le jury serait-il excellent, comme en Angleterre, pour procéder à l'instruction. La France a joui de ce système pendant un certain temps. Sous le code de Brumaire en 4, cette institution s'appelait le jury d'accusation, par opposition au jury de jugement. Quant au procès définitif, si l'on en revenait au jury d'accusation, il devrait être attribué au cour royale sans concours de jurés. Maintenant, dit Camusot après une pause, « Comment vous appelez-vous »« Monsieur Coquart, attention, » dit-il au greffier. « Lucien Chardon, de Rubempré. Vous êtes né à Angoulême. » Et Lucien donna le jour, le mois et l'année. « Vous n'avez pas eu de patrimoine ?»« Aucun. Vous avez néanmoins fait, pendant un premier séjour à Paris, des dépenses considérables relativement à votre peu de fortune. » « Oui, monsieur, mais à cette époque, j'ai eu dans Mademoiselle Coralie une amie excessivement dévouée et que j'ai eu le malheur de perdre. Ce fut le chagrin causé par cette mort qui me ramena dans mon pays. « Bien, monsieur, dit Camusot, je vous loue de votre franchise. Elle sera bien appréciée. » Lucien entrait, comme on le voit, dans la voie d'une confession générale. « Vous avez fait des dépenses bien plus considérables encore à votre retour d'Angoulême à Paris, » reprit Camusot. « Vous avez vécu comme un homme qui aurait environ 60 000 francs de rente. »« Oui, monsieur. Qui vous fournissait cet argent ?»« Mon protecteur, l'abbé Carlos Herrera. »« Où l'avez-vous connu ?»« Je l'ai rencontré sur la grande route, au moment où j'allais me débarrasser de la vie, par un suicide. » « Vous n'aviez jamais entendu parler de lui dans votre famille, à votre mère ?»« Jamais. »« Votre mère ne vous a jamais dit avoir rencontré d'Espagnol ?»« Jamais. »« Pouvez-vous rappeler le mois, l'année où vous vous êtes lié avec la demoiselle Esther ?»« Vers la fin de 1823, à un petit théâtre du boulevard. »« Elle a commencé par vous coûter de l'argent.
Oui, monsieur.
Dernièrement, dans le désir d'épouser mademoiselle de Grandlieu, vous avez acheté les restes du château de Rubempré. Vous y avez joint des terres pour 1 million. Vous avez dit à la famille Grandlieu que votre sœur et votre beau-frère venaient de faire un héritage considérable et que vous deviez ces sommes à leur libéralité. Avez-vous dit cela, monsieur, à la famille Grandlieu ?
Oui, monsieur.
Vous ignorez la cause de la rupture de votre mariage ?
Entièrement, monsieur.
Eh bien, la famille de Grandlieu a envoyé chez votre beau-frère un des plus respectables avoués de Paris pour prendre des renseignements. À Angoulême, l'avoué, d'après les aveux mêmes de votre sœur et de votre beau-frère, a su que non seulement ils vous avaient prêté peu de choses, mais encore que leur héritage se composait d'immeubles, assez importants, il est vrai, mais la somme des capitaux s'élevait à peine à 200 000 francs. Vous ne devez pas trouver étrange qu'une famille comme celle de Grandlieu recule devant une fortune dont l'origine ne se justifie pas. Voilà, monsieur, où vous a conduit un mensonge.
Lucien fut glacé par cette révélation, et le peu de force d'esprit qu'il conservait l'abandonna.
La police et la justice savent tout ce qu'elles veulent savoir, dit Camusot. Songez bien à ceci. Maintenant, reprit-il en pensant à la qualité de père que s'était donné Jacques Collin. Connaissez-vous qui est ce prétendu Carlos Herrera ?
Oui, monsieur, mais je l'ai su trop tard.
Comment trop tard ? Expliquez-vous.
Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un Espagnol, c'est...
Un forçat évadé ! Dit vivement le juge.
Oui, répondit Lucien. Quand le fatal secret me fut révélé, j'étais son obligé. J'avais cru me lier avec un respectable ecclésiastique. Jacques Collin, dit le juge en commençant une phrase.
Oui, Jacques Collin, répéta Lucien. C'est son nom.
Bien.
Jacques Collin, reprit M. Camusot, vient d'être reconnu tout à l'heure par une personne. Et s'il nie encore son identité, c'est, je crois, dans votre intérêt. Mais je vous demandais si vous saviez qui cet homme était, dans le but de relever une autre imposture de Jacques Collin.
Lucien eut aussitôt comme un fer rouge dans les entrailles en entendant cette terrifiante observation.
« Ignorez-vous, dit le juge en continuant, qu'il prétend être votre père pour justifier l'extraordinaire affection dont vous êtes l'objet.
Lui, mon père ?
Oh, monsieur, il a dit cela ?
Soupçonnez-vous d'où provenaient les sommes qu'il vous remettait ? Car, s'il faut en croire la lettre que vous avez entre les mains, la demoiselle Esther, cette pauvre fille, vous aurait rendu plus tard les mêmes services que la demoiselle Coralie.
Mais vous êtes resté, comme vous venez de le dire, pendant quelques années à vivre, et très splendidement, sans rien recevoir d'elle.
C'est à vous, monsieur, que je demanderai de me dire, s'écria Lucien. Où les forçats puisent de l'argent ? Un Jacques Collin, mon père ? Oh, ma pauvre mère !
Et il fondit en larmes.
Greffier, donnez lecture aux prévenus de la partie de l'interrogatoire du prétendu Carlos Herrera, dans laquelle il s'est dit le père de Lucien de Rubempré.
Le poète écouta cette lecture dans un silence et dans une contenance qui fit peine à voir.
« Je suis perdu ! S'écria-t-il.
« On ne se perd pas dans la voie de l'honneur et de la vérité, » dit le juge.
« Mais vous traduirez Jacques Collin en cour d'assises ? » demanda Lucien.
« Certainement, » répondit Camusot, qui voulut continuer à faire causer Lucien. « Achevez votre pensée. »
Mais, malgré les efforts et les remontrances du juge, Lucien ne répondit plus. La réflexion était venue trop tard, comme chez tous les hommes qui sont esclaves de la sensation. Là est la différence entre le poète et l'homme d'action. L'un se livre au sentiment pour le reproduire en images vives, il ne juge qu'après, tandis que l'autre juge et sent à la fois.
Lucien resta morne, pâle, il se voyait au fond du précipice où l'avait fait rouler le juge d'instruction à la bonhomie de qui, lui, poète, s'était laissé prendre.
il venait de trahir non pas son bienfaiteur, mais son complice, qui, lui, avait défendu leur position avec un courage de lion, avec une habileté tout d'une pièce. Là où Jacques Collin avait tout sauvé par son audace, Lucien, l'homme d'esprit, avait tout perdu par son inintelligence et par son défaut de réflexion. Ce mensonge infâme, et qui l'indignait, servait de paravent à une plus infâme vérité. Confondu par la subtilité du juge, épouvanté par sa cruelle adresse, par la rapidité des coups qu'il lui avait portés, en se servant des fautes d'une vie mise à jour, comme de crocs pour fouiller sa conscience, Lucien était là, semblable à l'animal que le billot de l'abattoir a manqué. Libre et innocent, à son entrée dans ce cabinet, en une heure, il se trouvait criminel par ses propres aveux. Enfin, dernière raillerie sérieuse, le juge, calme et froid, faisait observer à Lucien que ses révélations étaient le fruit d'une méprise, qu'Amusot pensait à la qualité de père prise par Jacques Collin, tandis que Lucien, tout entier à la crainte de voir son alliance avec un forçat évadé devenir publique, avait imité la célèbre inadvertance des meurtriers d'Ibicus. L'une des gloires de Royer-Collard est d'avoir proclamé le triomphe constant des sentiments naturels sur les sentiments imposés, d'avoir soutenu la cause de l'antériorité des serments en prétendant que la loi de l'hospitalité, par exemple, devait lier au point d'annuler la vertu du serment judiciaire. Il a confessé cette théorie à la face du monde, à la tribune française. Il a courageusement vanté les conspirateurs, il a montré qu'il était humain d'obéir à l'amitié plutôt qu'à des lois tyranniques tirées de l'arsenal social pour telle ou telle circonstance. Enfin, le droit naturel a des lois qui n'ont jamais été promulguées et qui sont plus efficaces, mieux connues que celles forgées par la société. Lucien venait de méconnaître, et à son détriment, la loi de solidarité qui l'obligeait à se taire et à laisser Jacques Collin se défendre. Bien plus, il l'avait chargé. Dans son intérêt, cet homme devait être pour lui et toujours Carlos Herrera.